Alors, salutations à tous. Et tout d'abord, je dois remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de condoléances et des prières après que ma mère nous ait quittés. Le 24 décembre. Et je n'ai pas été en mesure de répondre ou d'écrire à tous ceux qui m'avaient écrit. En fait, j'ai pu le faire à personne parce que nous avons été très très occupés par ici. Et j'aimerais présenter mes excuses pour cela. Et j'ai été très touchée par tous les messages et toutes les prières que vous m'avez envoyées, chacun de vous. Je pense que je vais envoyer un court message sur le site internet, mais elle est morte extrêmement paisiblement et d'une façon très bonne, très, très positive. Les lamas qui sont venus à son chevet, en fait, ont refusé de faire powwow parce qu'ils ont dit qu'elle était en tuk dam. Je ne sais pas si elle l'était réellement ou pas en tuk dam, mais en tout cas, elle est morte de façon extrêmement paisible. Quand elle est morte, bien que certains d'entre nous aient été auprès d'elle sans cesse, sans interruption, en fait, elle est réellement morte littéralement pendant son sommeil. Et puis ensuite, elle a manifesté tous les signes positifs, donc je pense que sa mort s'est déroulée au mieux. Et puis aussi, à cause de cela, il y a eu beaucoup de prières, il y a eu beaucoup de lamas, beaucoup de visiteurs aussi, donc je n'ai pas pu être présent pour la dernière séance de questions-réponses, et je voudrais m'excuser pour cela aussi. Et donc, par conséquent, pour cette fois-ci, j'ai reçu beaucoup de questions, il y en a 18 questions écrites. Donc, je ne sais pas comment gérer ça au mieux, parce que j'aimerais également pouvoir recevoir et prendre en compte des questions qui arriveront en direct. Mais peut-être que du coup, je vais simplement répondre aux quelques premières questions, et puis on verra ensuite comment procéder. Donc, la première question, elle est de Claudia. Et la question c'est, donc c'est une question un peu urgente qui dit la chose suivante: je vais subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine. Que puis-je faire quant à la peur de souffrir et de mourir? Donc Rinpoche répond que bien sûr les opérations ne sont pas les choses les plus faciles à vivre. Bien sûr, lorsqu'on a une opération, il y a toujours un danger. Donc, il peut y avoir des craintes, celles de souffrir, de mourir, etc. Mais ce à quoi nous devons penser, c'est que nous devons tous faire face aux choses auxquelles nous sommes confrontés par la vie. Parfois, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Parfois, nous avons des douleurs physiques comme des maladies. Parfois, nous avons des problèmes mentaux, émotionnels et des situations très difficiles, etc. Et que nous aimions cela ou pas, que ça nous fasse plaisir ou pas, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire face à ces situations, de les traverser et de les vivre. Et plus nous allons craindre ces situations, plus le fait de craindre va être cause pour nous de souffrance. Parce que quelle que soit l'intensité de la douleur physique à laquelle nous sommes confrontés, la peur ne va pas réduire cette douleur, mais par-dessus le marché, en fait, la peur, elle crée une souffrance émotionnelle additionnelle qui vient se surajouter à la douleur physique que nous avons. Et donc, arriver à voir cela, arriver à le comprendre, je pense qu'en arrivant à voir et à comprendre cela, on doit se dire que quoi qu'il arrive, je vais devoir y faire face et j'y ferai face, j'ai pas le choix. Je ferai de mon mieux pour empêcher que cette circonstance désagréable se produise. Mais en dernière analyse, j'aurai pas le choix, j'aurai pas d'autre choix que d'y être confronté. Et donc, au moins, je vais essayer de ne pas avoir trop de peur. Je vais faire face à ces circonstances défavorables, difficiles. Il y aura peut-être des douleurs, et peut-être que, il n'y aura pas autant de douleurs que ce que vous craigniez avant. Peut-être que le danger n'est pas si imminent et dangereux que vous craigniez. En fait, en général, ce que nous craignons, enfin, les choses que, les craintes que nous développons par rapport à ce qu'on imagine qui pourrait arriver, c'est bien pire que ce qui se passe en réalité. C'est bien plus effrayant que ce qu'on vit en réalité. Ce qu'on imagine est plus effrayant que ce qu'on vit en réalité. Et c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Je ne peux pas me débarrasser de tous ces problèmes, mais je peux au moins réduire ma peur en développant la certitude que quoi qu'il arrive, il faudra que je le traverse, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc on y fait face de manière courageuse, de manière aussi détendue que possible, et donc avec du courage. Parce que c'est la seule solution. La peur, elle ne peut pas nous aider. Donc, Rinpoche dit, je vais prier pour vous, pour que cette opération se passe bien. Et je suis sûr que toutes les personnes présentes vont aussi vous envoyer vos prières et vos bons souhaits. Et ça, parfois, ça peut aider. Et puis, vous pouvez aussi vous dire que voilà, je vais traverser cela du mieux que je peux, avec un esprit clair, avec de la détermination, avec une attitude positive, avec du courage. Et je vais faire face à ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Si vous mourrez d'une façon positive. En fait, le moins vous aurez de crainte, plus votre façon, les circonstances de votre mort seront positives. Et en fait, c'est notre seule possibilité. On ne peut que faire des pratiques positives. Vous faites toutes les pratiques positives que vous pouvez. Vous méditez, vous laissez votre esprit demeurer dans son état naturel. Quoi que vous puissiez faire, vous le faites. Et puis, je pense que vous allez traverser cela de façon positive, je pense. La question suivante, elle est de David. Et cette question, elle dit, j'ai des doutes sur la stance 4. Si je comprends bien les descriptions du samsara, nous avons tous réalisé, chiné, puis perdu cette réalisation lors des renaissances successives dans les royaumes de la forme et du sans-forme. Alors, si cette réalisation risque d'être perdue, sachant qu'elle est très difficile à obtenir compte tenu des nombreuses distractions de ce monde, j'en viens à me dire que cela aurait plus de sens de méditer sur la bodhicitta ou d'accumuler du karma afin d'accéder à des Dewachen. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter? Et vous relis la stance 4. Donc, c'est par la vue pénétrante associée au calme mental qu'on achève la destruction des passions. C'est donc le calme mental qu'il faut chercher en premier lieu, et il naît d'un fervent renoncement au monde. Et Rinpoche répond. Là, ça a été coupé. Rinpoche dit, voilà, la stance 4, elle parle beaucoup de la méditation de la vision pénétrante. Une puissante méditation de la vision pénétrante en union ou soutenue par la méditation de Shamatha. C'est ça qui nous permet d'éliminer nos kleshas et ainsi. C'est ça qui va nous amener à l'éveil. C'est ça que dit la stance numéro 4. Et donc, concernant la méditation de Shiné ou de Shamatha, donc, et la méditation de Shamatha ou de Vipassana plutôt, de l'Aktong, en union, c'est ça qui est très important et c'est ce que dit la stance 4. Bien sûr, la méditation de Shamatha seule ne pourra pas éradiquer ou déraciner toutes les émotions négatives, tous les kleshas. Et donc, la méditation de Shamatha en elle-même, elle ne peut pas nous apporter une libération complète du samsara. C'est ça que ça dit. Ça ne veut pas dire que une fois qu'on a une certaine stabilité de Shamatha, on ne va pas la perdre, bien sûr. Quelle que soit la chose à laquelle on s'entraîne, ça va rester. Il va en rester quelque chose qu'on pourra conserver. C'est pas quelque chose qu'on va perdre complètement. Mais bien sûr, c'est très bien de méditer sur la bodhicitta. Tant la bodhicitta relative que la bodhicitta ultime. C'est une très bonne chose d'accumuler du karma positif. Et la méditation de Shamatha, elle participe à l'accumulation de karma positif. Ça, c'est quelque chose qu'il vous faut comprendre. Et si vous arrivez à reprendre l'essence en Dewachen, c'est très bien également. Et donc, on peut essayer de faire autant que nous pouvons de toutes ces choses. C'est pas que on devrait en faire qu'une et s'abstenir de toutes les autres. On peut essayer d'accumuler du karma positif. On peut essayer de diminuer notre karma négatif. On doit essayer de dompter, d'apprivoiser notre esprit par la méditation, par différentes sortes de pratiques, la bodhicitta, shamatha, vipassana, peu importe. Donc c'est ça l'idée. Et si nous faisons ces choses, alors il est possible que nous reprenions naissance en Dewachen. Et si nous ne prenons pas naissance en Dewachen, de toute façon, on retirera des bienfaits de toutes ces pratiques. La question suivante, elle est de Henriette. Si il y avait un bonheur inconditionnel, pourquoi est-ce que vous en majuscule, essayeriez de rendre quelqu'un heureux. Si il y avait une paix inconditionnelle, pourquoi est-ce que vous en majuscule auriez besoin d'une entité en laquelle vous réfugiez? Si l'amour inconditionnel existait, pourquoi feriez-vous en majuscule une différence entre des êtres samsariques et des êtres ayant un autre état d'esprit? Et dernière partie de la question, est-ce que ce chemin consistant à garder ses distances, à rester loin, à s'échapper, à prendre une route visant à obtenir quelque chose et à se protéger en tournant le dos aux préoccupations du monde, n'est pas un chemin qui mène à l'orgueil et au grandissement de soi-même? Donc Rinpoche répond que cette question concerne le chapitre 8, tense 8 à 13. Dans cette section du chapitre 8, on parle de l'importance qu'a la pratique de la méditation et on explique que quelles sont les conditions qui permettent de réaliser cette pratique de la méditation. Et la condition, c'est de trouver de la solitude du corps, la solitude de la parole et la solitude de l'esprit. Et par là, d'essayer de En fait, la plupart d'entre nous, nous sommes très attachés à la compagnie des autres. On n'aime pas être seul, on aime bien avoir beaucoup de gens autour de nous. On a besoin aussi que les gens disent des bonnes choses de nous sans cesse. Et parfois, on attache trop d'importance à ce que les gens disent ou ne disent pas. On attache trop d'importance au fait que les gens nous aiment ou nous aiment pas, etc. Et ensuite, à cause de ça, on devient tellement impliqué là-dedans on se crée beaucoup de douleurs pour nous-mêmes, juste parce que quelqu'un dit quelque chose d'agréable ou de désagréable. Et toutes ces personnes, en fait, disent ces choses sans y faire très attention. Et nous aussi, on réagit sans y prêter trop d'attention. Et c'est pourquoi le texte dit que il n'est pas nécessaire de trop suivre la société un peu puérile qui, dès qu'on nous dit qu'on est bien, nous fait nous sentir bien et que qui nous fait nous sentir si dévastés dès qu'on nous dit qu'on n'est pas bien. Je pense que je dois mettre bien l'accent là-dessus. Maintenant, la question, si il y avait un bonheur inconditionnel, pourquoi est-ce que vous essayez de vous occuper du bonheur des autres? Ce que ça dit ici, c'est bon, c'est pas dit dans ces stances, mais de façon générale, on dit que on peut trouver le bonheur à l'intérieur de nous-mêmes, oui. Et que le seul bonheur véritable qu'on puisse trouver, c'est celui qu'on peut trouver par nous-mêmes et en nous-mêmes. En dehors de ça, personne, rien ni personne et aucune situation ne peut nous donner le bonheur. C'est ça que l'on dit d'habitude. Mais ce bonheur-là, il faut qu'on le découvre, il faut que l'on apprenne comment faire pour Réveiller ce bonheur, pour en faire l'expérience, pour vivre ce bonheur. Donc ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps déjà complètement heureux. Et c'est pareil avec la paix et l'amour, on n'en fait pas pour l'instant une expérience constante. Donc ce sont des choses que nous devons apprendre. Nous devons apprendre comment réveiller cela, comment manifester cela, comment découvrir toutes ces choses en nous, et c'est tout le but de la pratique. Oui, rester un peu éloigné et rester un peu à distance des distractions excessives peut être bon à la fois pour nous et pour les autres aussi. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on ne devrait pas être bon et compatissant. Au contraire, il est dit partout que on devrait être bon et compatissant. Donc il faut comprendre la chose dans son entier et pas juste prendre une phrase hors de tout contexte et vouloir l'appliquer comme une vérité générale. Mais on ne devrait pas se laisser trop affecter par les choses que les gens disent, par ce qu'ils peuvent critiquer. En fait, il faut que nous devenions stables et que nous ne puissions plus être ébranlés par la moindre parole ou la moindre critique. Et pour ce qui concerne le fait de se mettre soi-même sur un piédestal, oui, c'est aussi un problème et on devrait être conscient de cela. Et on devrait être un peu moins attaché aux choses du monde et aux relations mondaines, parce que ça va nous apporter beaucoup de souffrance et de douleur à nous-mêmes. Mais il s'agit pas, on ne parle pas d'abandonner. Et c'est pourquoi on parle de la compassion, de la bodhicitta et toutes ces choses. On sait que tout le monde veut être libre de la souffrance et avoir une paix et un bonheur durable. Et on sait que il est possible de comprendre et d'obtenir cette libération et ce bonheur durable, mais ça requiert un travail. Et ça demande aussi à ce qu'on ne court pas trop après, par exemple, l'appréciation des gens, après les louanges, etc. Parce que si on fait ça, eh ben oui, on va devenir, on va se mettre au centre et on va se mettre sur un piédestal et ça va créer des problèmes pour nous et pour les autres. Puis, une autre question de Tristan. Et donc la question, c'est comment pouvez-vous donner de la compassion à ceux qui vous ont blessé, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement? Y a-t-il un moyen de surmonter cela et de devenir capable de donner de la compassion? Krimpoche réfléchit. Et il explique, il dit, vous savez, fondamentalement, comment, si on regarde comment sont les gens, fondamentalement, les gens, ils courent après le bonheur pour eux-mêmes et ils fuient leur propre souffrance, tout ce qui leur semble négatif. Et ils font ça très intensément. Et dans cette quête, parfois intentionnellement et parfois pas intentionnellement, ils nuisent, ils blessent, ils causent des problèmes aux autres aussi. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si quelqu'un a causé des douleurs physiques, mentales ou émotionnelles ou des souffrances de ces trois ordres à nous, eh ben, il faut que nous comprenions que ces personnes, elles l'ont fait alors qu'elles étaient elles-mêmes dans cette quête et dans cette lutte qui visait à courir après quelque chose de bien pour elles ou à fuir quelque chose de désagréable pour elles-mêmes. Et quelque part, on se trouvait sur leur chemin et du coup, on a été affecté par leur propre cheminement. Et tout le monde est dans ce même état d'esprit. Et donc, il n'y a pas tellement de raison de haïr les autres à cause de ça. Parce que nous-mêmes, on fait les choses plus ou moins de la même manière. Et puis, aussi, le degré auquel nous sommes blessés, ça a surtout à voir avec nos propres réactions à nous. Et puis, plus on réagit fortement à ce qui arrive, plus on se blesse. Plus on est en colère, plus on se porte du préjudice à nous-mêmes. Moins on pardonne, plus on se blesse soi-même. Et donc, si c'était pour aucune autre raison, ne serait-ce que pour notre propre bien, il faut que nous apprenions, il faut que nous commencions à pardonner et à laisser s'en aller, parce que c'est ce qui est le mieux pour nous et c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc même en supposant que on se sent pas concerné par eux-mêmes, si on se sent que concerné par nous-mêmes, le mieux qu'on puisse faire pour arrêter de se blesser soi-même, c'est d'arrêter de se laisser bouleverser et d'arrêter de se laisser sentir mal et d'arrêter d'avoir de l'aversion à tout ça. Cette compréhension, c'est dans cette compréhension que consiste la pratique. Donc, si nous pardonnons à quelqu'un, parfois les gens pensent que si je pardonne à quelqu'un, je fais une faveur à cette personne. Mais en fait, la plus grande faveur que je fais, c'est à moi-même que je l'accorde. Parce que en ne pardonnant pas, c'est à moi que je fais du mal. Donc il faut comprendre cela. Et alors je pense que ça devient non seulement possible de pardonner, mais qu'on peut avoir de la compassion. Est-ce que nous continuons par quelques questions en direct à partir de là? Ou est-ce que je continue? On a des questions en direct, dit Andy. Donc Rinpoche dit d'accord. Donc on a une première question de Karma Norbu. Bonjour Karma Norbu, dit Rinpoche. Bonjour Rinpoche, Tachidélé. J'ai une question liée à la prière d'aspiration de Kuntu Zangpo et les instructions de méditation. Je me demandais si, quand on demeure dans l'alaya, est-ce que c'est la même chose que shamatha sans support, sans objet, dans la phase initiale de la méditation? C'est ça la question? C'est quoi la question de Mandrine Poucher? Et donc, est-ce que demeurer dans l'alaya, c'est la même chose que la méditation de shamatha sans objet? Est-ce que ça fait sens, cette question? Demande Kerbalam. Et Rinpoche dit oui, un peu. Je pense que ça sera bon de commencer comme ça, oui. Ok, c'est bien. Merci beaucoup, dit Kermanarbo. Donc, si on commence avec Shamatha, ça va nous mener à demeurer dans la Laya. Et Rinpoche reprend. Oui, on peut dire les choses comme ça. On peut dire que Shamatha sans objet, oui, c'est un peu comme ça. Si vous allez dans la compréhension, alors ça pourrait être un peu différent de la. Mais si on s'en. Ok, si on regarde les choses du point de vue de la vue, ça peut être un peu. Il peut y avoir une différence, mais du point de vue de la. Si on regarde les choses du point de vue de la méditation, oui, c'est un peu similaire. Et qui d'autre? Bonjour, c'est Malou. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien, dit Malou. Rinpoche, je n'ai pas écouté tous les enseignements, mais j'ai écouté quelques enseignements sur le chapitre aujourd'hui. Vous parlez de la 34 du chapitre 8? Oui. C'est concernant la solitude et la forêt. Et pour être honnête, il y a longtemps, en France, il y avait une sadhana de Milarepa. Et j'en ai pas souvent entendu parler de cette sadhana dans d'autres groupes ou dans d'autres enseignements. Est-ce que vous aimeriez donner cette sadhana de Milarepa un jour? Il y a un beau mantra ou est-ce que ce n'est pas vraiment une pratique? C'est fait dans un monastère. Tout le monde peut la faire, dit Rinpoche. C'est un guru yoga de Milarepa. Il y a beaucoup de guru yoga différents. Et de façon générale, d'un point de vue pratique, vous pouvez dire, si vous voulez, les Tibétains. Ils aimeraient faire le guru yoga d'un maître authentique qui nous a quittés il y a de cela longtemps. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ils n'auront aucun problème avec ce maître. Ils ne pourront pas lui trouver de défaut. Vous comprenez pourquoi? En fait, on ne peut pas avoir de problème avec Milarepa parce qu'il n'est plus là. Et donc, on ne peut pas lui trouver des défauts parce qu'il ne vit plus. Donc ça, c'est l'une des raisons. Et l'autre raison, c'est que on connaît l'histoire de Milarepa et on connaît tout le concernant. Et donc, on n'a aucun problème avec rien de ce qui lui est arrivé, avec rien de ce qu'il a vécu. Et puis, on a ces enseignements, ces chants. Et donc, c'est beaucoup plus facile, à partir de tout ce matériel, d'avoir de la dévotion. Et puis, on peut relier ça à tous les autres gourous et maîtres et enseignements. Et donc, on fait les gourous yoga de Marpa Milarepa Gampopa, Guru Padmasambhava, ou n'importe quel autre grand maître de ce genre. Donc c'est habituel et traditionnel de faire ainsi. Et donc oui, il y a un très beau guru yoga de Milarepa que beaucoup de personnes pratiquent, en particulier les Kagyupa. Mais Milarepa, c'est un enseignant qui n'est controversé par personne, qui n'est remis en cause par personne, et qui est considéré comme étant inspirant par tout le monde. Quelle que soit l'école d'appartenance. Et donc, oui, un jour, nous pouvons étudier cette pratique également, bien que je l'ai déjà enseignée, et donc il y a peut-être des enseignements, de différents enseignements sur Milarepa, ça c'est possible. Et il y avait un mantra aussi d'Imalu, et oui, dit Rinpoche, il y a un mantra et il y a toutes sortes de choses. Et aussi, reprend Rinpoche, c'est bien de juste lire le Bodhicharya Avatara et d'écouter. Il n'y a pas besoin de l'étudier en profondeur, mais juste de le lire. Parce que, en fait, on ne fait que garder une ou deux stances. On ne retient pas l'intégralité du texte. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir une vision d'ensemble pour avoir une idée un peu complète de tout le texte. D'accord ? Merci, dit Malou. Et puis, dit Rinpoche, question suivante. Curtis. Ok. Bonjour. Merci pour votre enseignement, Rinpoche. Ma question, concerne le premier chapitre, et en particulier donc d'après par la puissance des Bouddhas, la vertu s'élève. Donc cette phrase, la puissance des Bouddhas, est-ce que vous pouvez commenter cela? Qu'est-ce que c'est que cette puissance des Bouddhas? Je comprends à peu près ce qu'est la nature de Bouddha, ce qu'est la bodhicitta, mais je ne suis pas sûr de comprendre à quoi fait référence cette puissance des Bouddhas. Et Rinpoche dit, ce que dit le texte, c'est que nous, êtres samsariques, nous avons tellement de négativité, tellement, que même d'avoir ne serait-ce que un tout petit peu de pensée positive ou de sentiment positif ou de un tout petit peu de bonté, ne serait-ce que d'avoir un tout petit peu de compassion qui se produit, qui se manifeste, c'est déjà très difficile pour nous, en raison de toutes les négativités que nous avons. Donc c'est si difficile que si ça nous arrive, on devrait considérer ça comme une grande bénédiction. C'est comme si, lors d'une nuit très obscure, quand il y a pas du tout de lumière du tout, et avec des nuages dans le ciel très épais, il pleut, et si par une telle nuit on voit ne serait-ce qu'un tout petit peu de lumière et qu'on arrive à y voir ne serait-ce qu'un tout petit peu, en fait, une pensée imprégnée de bonté, de bienveillance, de compassion, une expérience aussi momentanée soit-elle de compassion, de bonté, on devrait le considérer comme quelque chose de vraiment bien, de vraiment bon, donc comme une lumière au milieu d'une telle nuit. Donc, la part négative de nous est si forte que même si on arrive à avoir qu'un tout petit peu de positif en nous, on devrait l'apprécier et s'en réjouir. Je pense que c'est ça que veut dire le texte. Et Curtis dit merci beaucoup. Donc, en fait, ce que veut dire le texte, c'est à quel point on devrait apprécier toutes les pensées positives de bonté et de compassion que nous avons. On devrait en comprendre la valeur et le but et le sens et la puissance de ces pensées positives, si brèves soient-elles. Puis nous avons Nina. Bonjour Rinpoche. Comment allez-vous? Demande Rinpoche. Je vais bien, comment allez-vous? Répond Nina. Je vais bien, dit Rinpoche. Je comprends, d'après les enseignements, que la compassion est l'antidote à la colère. Mais j'ai l'impression parfois que quand je développe la compassion, c'est comme si j'ignorais la situation, c'est comme si je me voilais la face quant à la situation. Est-ce que vous pourriez commenter ça? Et Rinpoche demande par qu'est-ce que vous entendez par ignorer ce qui vous dérange? Et Nina répond, parfois j'ai l'impression que si je ne suis pas en colère, c'est comme si je ne suis pas en lien avec la situation et je me demande à quoi ça ressemble une compassion authentique. Et Rinpoche dit, voilà, moi je pense que les choses sont de la façon suivante. On peut jamais avoir une situation où tout se passe à 100% comme on le voudrait, d'accord? Jamais ça ne se produit, jamais au grand jamais. Que tout se passe exactement comme vous le souhaiteriez. Donc si vous devez vous mettre en colère parce que quelque chose ne se déroule pas exactement comme vous voudrez, alors il va falloir que vous vous mettiez en colère tout le temps. Donc si il faut être en colère tout le temps, c'est le pire qui puisse vous arriver. Parce que alors vous allez être malheureuse sans cesse. Oui. Donc je pense que c'est beaucoup mieux que vous ignoriez simplement. Si plein de choses ne se déroulent pas comme vous voulez, vous ne pouvez juste dire « oui, alors je vais laisser ça être, et alors ça sera quoi le problème ?» Vous ne pouvez pas, de toute façon, faire que tout soit exactement comme vous le voudriez. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. Parce que si vous fallait que vous vous mettiez en colère à propos de tout ce qui ne se déroule pas exactement comme vous voudriez, alors vous allez devenir, ça va être dur pour vous, et vous ne voulez pas que ce soit dur pour vous sans cesse. Donc, laissez les choses être, c'est le mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui suggèrent que vous devriez vous mettre en colère. Eh bien, ignorez-les parce que ça n'est pas un bon conseil. Merci beaucoup, dit Nina. Ensuite, la question suivante, elle nous vient de Rinchen. Bonjour Rinchen. Bonjour Rinpoche, dit Rinchen. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous revoir. Ici, c'est bonsoir, mais c'est pas grave, dit Rinpoche. Oui, pardon, dit Rinchen. Donc, il y a quelqu'un qui est avec lui et qui veut poser une question. Bonjour, bonsoir, Rinpoche. On est à Antigua, on a beaucoup de soleil et on a beaucoup de... C'est très agréable. Il fait très froid ici, dit Rinpoche. Le temps est bon, mais vous pouvez me voir. Merci Rinpoche pour vos enseignements. Et merci aussi pour toutes vos prières. Pour votre mère et la mienne. « Ma mère est décédée 4 jours après la vôtre. Donc, je les vois réunis quelque part. Très bien, dit Rinpoché. Où était-elle? Demande Rinpoché. Elle était en Italie, dans une maison de retraite. On lui a parlé quelques jours avant et elle allait bien. Et puis, elle est tombée malade et elle n'a été hospitalisée que 2 jours. Et Rinpoché dit, bon, c'est pas si mal, après tout. Comme vous avez dit pour votre maman, je pense qu'elle s'est endormie dans son sommeil sans trop de souffrance. Mais bien sûr, personne ne pouvait être à ses côtés à cause du Covid. Et ça, c'est peut-être la partie un peu triste. Mais elle savait qu'elle était aimée et je pense que c'était la partie la plus importante. Et Rinpoche dit, oui, j'ai reçu votre mail seulement récemment, parce que le premier, j'étais trop distrait peut-être, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dis des prières pour elle, et on dit aussi beaucoup de prières pour ma propre mère, donc on fait pour les deux ensemble. Et j'aimerais vous exprimer mes condoléances aussi. Et merci. Et pareillement à vous, de ma part, de Andrew et Rinpoche, je voulais vous demander, j'ai vraiment aimé cet enseignement divin sur Samantha Badra. Et comme ma mère est morte, je l'ai répété 2 fois par jour. Le matin et le soir. Et j'ai trouvé ça vraiment adapté à cette circonstance dans laquelle tant de gens souffrent et meurent. Donc, je voulais vous demander si c'était une bonne prière qu'on pouvait continuer à réciter. Et est-ce qu'il y a d'autres prières qu'on pourrait ajouter à ça? Moi, je faisais Tonglen et je voulais vous demander des suggestions. Et Rinpoche dit, je pense que c'est une très bonne prière et qu'il n'y a rien de mieux que ça. Il y a plein d'autres prières, mais celle-là, elle est vraiment très bien. Et oui, je pense que c'est très bien et que vous avez besoin de rien d'autre. Merci en tout cas d'avoir enseigné là-dessus à ce moment incroyable. Fabuleux, merci d'Irine Poche et merci dit-elle et tout le meilleur. Merci. Et Rinpoche dit, je pense que je vais reprendre encore quelques questions écrites parce qu'il nous en reste encore beaucoup. Donc la question suivante, elle est de Linda. Donc, c'est une question sur les méditations de Shamatha et Vipassana qui m'est venue dans l'instance 4. En fait, concernant les instructions de la prière de Samantha Badra, est-ce qu'on les voit plutôt comme appartenant à Shamatha ou à la méditation de Vipassana? Et Rinpoche dit, en fait, on pourrait dire que ça relèverait plutôt de Vipassana. Mais de façon générale, Shamatha et Vipassana n'ont pas besoin d'être tellement vus comme tellement séparés. En fait, on parle de Shamatha quand le but principal c'est de se calmer, et Vipassana quand le but principal c'est d'avoir la vue. Mais toutes les méditations doivent mener à la vue. Donc, ça doit aller ensemble. Donc, quand vous parlez du Dzogchen, du Mahamudra, il faut que ça mène à Vipassana. Mais un peu de Shamatha, c'est une bonne. Comment dire? C'est un bon moyen de commencer. Et puis, une autre question de Linda. Encore. Linda a en fait deux questions. Dans votre commentaire sur la tense 17 à 20, je pense que vous avez dit que quand on meurt, tout ce que vous emportez, c'est votre karma négatif. Est-ce que vous n'emmenez pas aussi votre karma positif avec vous? Oui, bien sûr que vous l'emmenez aussi avec vous, votre karma positif. Mais ce que le texte essaie de dire à ce moment-là, c'est que si nous ne pratiquons pas, si nous ne faisons pas quelque chose de bien, alors la seule chose qu'on aura à prendre avec nous, c'est du mauvais karma et ce sera pas bien, et c'est ça que le texte dit. Mais bien sûr que on emmène tout le karma avec nous, pas que le mauvais. Si on en a du bon, on l'emmène avec nous. Et puis la question suivante. Est-ce que c'est Downling? Je pense que la question est très courte. Comment obtenir l'éveil? Et Rinpoche rigole. Comment obtenir l'éveil? Répète Rinpoche. C'est Down la question. Et Rinpoche répond, bah c'est ça le sujet de l'enseignement sur la prière de Samantabhadra, et en fait c'est le sujet de tous les enseignements, cette question. C'est d'obtenir l'éveil. Donc obtenir l'éveil, c'est être capable d'expérimenter comment on est lorsqu'on est dans notre état naturel. Donc tout ce qui peut vous rapprocher de cela est une façon d'obtenir l'éveil. Donc, d'abord, on doit commencer par avoir un peu de compréhension, et puis ensuite, on doit commencer par des petites étapes, on doit y aller progressivement. On doit essayer de faire moins d'actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit. Ça va aider. Donc c'est ça qui va nous mettre sur le chemin de l'éveil. Et puis, on doit essayer de faire autant que possible des choses positives avec notre corps, notre parole et notre esprit. Donc ça aussi, ça nous, c'est un des chemins vers l'éveil. Et puis ensuite, travailler avec nos émotions, nos pensées, notre esprit, apprivoiser, dompter l'esprit, transformer notre esprit. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous met sur le chemin vers l'éveil. Et parfois, on dit on dit deux choses. Donc, développer notre compassion et notre sagesse, c'est ça, obtenir l'éveil. Parce que si vous demandez qui est une personne éveillée, qui est un Bouddha, alors vous pouvez dire que quelqu'un dont la sagesse et la compassion se sont développées au maximum, eh ben, une telle personne peut être appelé un Bouddha, peut être appelé une personne éveillée. Donc, on essaye de développer, de cultiver notre compassion et notre sagesse. Puis, la question suivante, elle est de Rachel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire quelques mots concernant les morts? Dans le bouddhisme, qui sont-ils? Le Bouddha a dit que tous les phénomènes étaient impermanents et que il n'y a que notre karma qui reprend, qui renaît. Est-ce que les rituels funéraires impliquent qu'il y a quelqu'un après le décès qui pourrait entendre nos prières et les rituels que nous faisons? Et Rinpoche répond, du point de vue bouddhiste, on parle des bardos, les quatre bardos ou les six bardos. Donc on est tout le temps en transit, on est tout le temps en transition. Quand nous sommes dans cette vie, eh ben, ça s'appelle le bardo de la vie. C'est également une transition, le bardo de la vie. Après, il y a le bardo du moment de la mort. Ensuite, il y a le bardo du dharmata. Et puis, le bardo du devenir. Donc, il y a quatre bardos, donc on est toujours dans l'un des quatre. Donc, quand nous mourons, alors nous sommes morts. Ou on peut les appeler morts, mais on est dans le processus. Soit on est dans le bardo du moment de la mort, ou on est dans ce qu'on appelle le bardo du dharmata. Et il ne s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de nous, qui que nous soyons. Nous changeons sans cesse. Et donc, ce n'est pas le karma qui reprend naissance, c'est la conscience. C'est cette conscience qui reprend naissance. En fait, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. C'est pourquoi on donne toujours l'image du lait et du yaourt. Il y a un livre de moi qui s'appelle « Du lait au yaourt ». Peut-être que vous l'avez lu ou peut-être pas encore. En fait, le lait devient du yaourt. Mais le lait n'est pas du yaourt et le yaourt n'est pas du lait. Mais sans lait, il ne pourrait pas y avoir de yaourt. Mais quand il y a du lait, il n'y a pas de yaourt, et quand il y a du yaourt, il n'y a plus de lait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le lait quand on en est au yaourt? Donc, le yaourt, on pourrait dire que c'est comme une renaissance du lait, en fait. Et tout change. Donc, il y a d'un côté notre vie présente, et de l'autre la vie future. Et c'est pas exactement la même chose, mais c'est une continuation, c'est une suite. Ce sont les changements successifs qui amènent de une vie à la suivante. Donc c'est pas exactement la chose que je suis maintenant, ce qui va reprendre naissance, mais d'un autre côté, sans ce que je suis maintenant, il ne pourrait pas y avoir la suite. Et c'est pas quelque chose qui est vrai que d'une vie à l'autre, c'est quelque chose qui est aussi vrai au sein de cette vie. Donc c'est comme ça que ça se passe du point de vue bouddhiste. Bien sûr, quoi qu'il m'arrive à cet instant, ça pourrait affecter mon moment suivant, demain ou après-demain, ou même au moment de la mort, ou la vie successive. Donc, le mieux, c'est si je fais quelque chose de bien, en pratique, si je travaille sur moi, alors ça sera très bon pour moi, pour la vie future. Et aussi pour cette vie. Mais si je meurs et que quelqu'un fait de très bonnes prières, des choses positives, en mon nom, ou pour moi, cela aussi, ça peut m'être bénéfique. Donc, à cause du fait que tout est interdépendant, à cause du fait que tout est connecté, il ne faut pas croire que personne ne pourrait m'aider. Oui, les gens peuvent aider. Ils peuvent envoyer des pensées positives. Ils peuvent réciter des prières. Et ça peut aussi m'être bénéfique, le moment où je meurs. Quelque chose comme ça. La question suivante, je pense que je vais encore faire cette question, la suivante. Et puis, la question suivante, les questions suivantes, je sais pas, peut-être que je vais faire une vidéo et y répondre en vidéo. Donc, la question suivante est de Reinders. Apaiser les mamots, est-ce que c'est appliquer les quatre karmas pour. Les quatre karmas. Que sont les quatre karmas, les quatre maras, les quatre mamots? Seulement à la fin de la liste de prières, comme une dédicace. Apaiser les mamots, dit Rinpoche, c'est un peu compliqué, mais moi-même je comprends pas complètement ce que ça veut dire. Les quatre karmas, dit Rinpoche. Habituellement, les quatre karmas, c'est ce qu'on traduit aussi par les quatre activités. Donc l'activité paisible, l'activité d'accroissement, l'activité courroucée et une que j'ai oubliée. Je pense que c'est ça dont vous parlez. Donc ça n'a rien à voir avec les mamots et les maras. Ce sont quatre sortes d'activités que l'on peut avoir. Donc Rinpoche dit qu'il y a beaucoup de prédictions dans le bouddhisme aussi, qui disent que dans les temps dégénérés, les gens font beaucoup de choses négatives. Leurs émotions négatives deviennent très fortes et très crues. Il y a beaucoup d'avidité, beaucoup d'agression, etc. Et donc, à cause de ces émotions, ils dévastent, ils créent beaucoup de nuisances aux autres êtres, ils portent préjudice aux bonnes actions. À l'océan, à la terre, à l'air, à tous les éléments. Et que ça, d'après les prédictions, ça va aggraver les mamots. Et donc, beaucoup de choses négatives vont se produire, des maladies, des famines. Toutes sortes de. En fait, toutes sortes de catastrophes naturelles vont se produire, des feux, des tremblements de terre, des inondations, des tornades, des raz-de-marée, etc. Et donc, les gens doivent pacifier les mamots. Donc, et c'est aussi ce qu'a expliqué sa santé le Karmapa, c'est que les mamots, c'est fondamentalement, ce sont les éléments, et c'est aussi écrit ainsi, en un sens. Et donc, il est dit et il est écrit dans beaucoup de livres que dans le futur, les gens commettront beaucoup d'actions négatives et que ça aggravera les mamots et que beaucoup de choses négatives se produiront et qu'il faudra pacifier les mamots. En fait, mamo, le mot mamo, c'est un peu comme le mot mère. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler notre planète, notre mère. Donc c'est un peu en lien avec l'environnement, je pense, dit Rinpoche. Et je ne sais pas si le fait de faire des prières peut aider, je ne sais pas, il y a beaucoup de prières pour pacifier les mamos. Donc peut-être que ça aide. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, donc merci beaucoup. Et pour le reste de ces questions, je vais voir si je peux faire un enregistrement et l'envoyer. Mais ces jours-ci, toute la journée, il y a beaucoup de puja qui ont lieu, beaucoup de musique, beaucoup de tambours et tout ça. Et donc, toute la journée, c'est un peu comme s'il y avait un orchestre à la maison. Et donc, il n'y a pas d'endroit dans ma maison où je puisse faire des enregistrements dans de bonnes conditions. Donc, je vais essayer. Et si c'est possible, je ferai un enregistrement et je l'enverrai. Et sinon, je continuerai à répondre à ces questions écrites lors de notre prochaine rencontre. Donc, merci beaucoup et le meilleur à tous.